Allez, Bac FM, il est 20h, je vous le disais tout à l'heure, on va parler maintenant de la journée mondiale contre le harcèlement scolaire qui a lieu aujourd'hui avec mon invité Jennifer, chargée de prévention au BIGE. Bonjour.
Bonjour.
Comment le BIGE participe à la lutte contre le harcèlement scolaire ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Déjà, il y a tout un volet animation collective et intervention dans les établissements scolaires pour expliquer, comprendre ce que c'est que le harcèlement scolaire et aider les jeunes à avoir les outils pour s'en prémunir. Il y a tout un volet accompagnement individuel aussi où les jeunes là peuvent nous interpeller directement pour un petit peu nous expliquer ce qu'ils vivent et nous on les aide à identifier si c'est du harcèlement ou pas et quoi faire.
Alors il y a de l'accompagnement mais il y a aussi du matériel qui est mis à disposition, des petits livrets. On peut revenir rapidement sur ces livrets, on parlera aussi des partenaires, peut-être des autres réseaux avec lesquels vous travaillez dans cette thématique là.
Bien sûr, alors en termes de matériel on a effectivement des petits livrets qu'on remet à chaque élèves, chaque jeune lors d'une intervention collective qui en fait se permettent de comprendre le phénomène de harcèlement scolaire en fonction de la personne qui le lit. C'est-à-dire qu'on a un premier point sur ce que c'est être victime, comment je comprends que je suis victime, qu'est-ce que je peux faire pour être aidée ou comment je peux m'exprimer. Il y a tout un volet « je suis témoin » et l'idée c'est pas d'être un témoin passif, c'est d'être un témoin actif et donc de pouvoir aider nos camarades. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Et surtout on leur dit « attention, vous n'êtes pas des super-héros, l'idée c'est pas de s'interposer mais bien d'aider et de libérer la parole de la victime. Et puis il y a tout un volet sur « je suis auteur ». Donc là, pareil, on n'est pas là pour blâmer, on est là pour dire qu'on peut comprendre qu'il y a des difficultés à un moment donné, qu'on ne s'entend pas avec tout le monde, mais effectivement il y a des choses qui sont interdites et comment on peut retravailler ça pour améliorer les comportements.
Ouais, c'est ça aussi, l'important c'est d'accompagner autant l'auteur comme la victime, mais de comprendre aussi les deux positions et pourquoi ils en sont arrivés là aussi.
Exactement, surtout qu'on peut avoir des auteurs qui, en fait, lorsqu'on creuse un peu, ont eux-mêmes été victimes de harcèlement et reproduisent un schéma, du coup, qu'ils connaissent.
Ouais, c'est ça, c'est faire ce qu'on t'a pas fait, enfin, ne pas faire ce qu'on t'a fait, pardon, plutôt dans le passé,
c'est
ça.
Tout à fait.
Il y a aussi un réseau qui est mis en avant, c'est le réseau e-enfance, e-enfance.
Oui.
Comment vous travaillez avec eux, mais avant tout, quel est leur but à eux ?
Alors, e-enfance, c'est une association nationale reconnue d'utilité publique qui va accompagner l'ensemble des victimes de cyberviolence au sens large. Donc, effectivement, il y a le cyberharcèlement dedans. Ils ont un numéro de téléphone gratuit qui garantit aussi l'anonymat. Et puis, ils ont un chat en ligne, ils ont des réseaux, ils ont des professionnels qui forment, nous, nos collègues promeneurs du net, lorsqu'on met en place des formations à destination des professionnels du territoire. Donc on a vraiment des liens privilégiés avec eux, ce qui nous permet de nous tenir informés, d'adapter nos pratiques en fonction de l'évolution aussi du comportement des jeunes et du coup d'assurer une prise en charge globale.
Alors vous parlez de cyberharcèlement, c'est intéressant parce que donc Marie qui nous a rejoint voulait justement parler du cyberharcèlement et peut-être du lien aussi qu'il y avait avec le harcèlement scolaire aussi.
Oui tout à fait. Donc le BIGE intervient aussi dans des cas de cyberharcèlement, je suppose.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que c'est des situations un petit peu plus délicates à gérer, puisque forcément les auteurs ne sont pas forcément dans la même ville ou dans le même territoire, donc est-ce que c'est plus compliqué à gérer pour une victime ?
Alors c'est plus compliqué à gérer pour la victime déjà parce que à la différence du harcèlement scolaire, le cyberharcèlement ne s'arrête jamais. Donc le jeune, quand il va rentrer chez lui, va sûrement ouvrir son compte Instagram ou Snapchat, va se rendre compte qu'il y a aussi tout un amas de violence à cet endroit-là. Donc c'est beaucoup plus impactant pour la victime. Et nous, de notre côté, ce qui rend les choses difficiles, c'est cette notion d'anonymat et de confidentialité derrière un écran qui fait qu'on peut se sentir très puissant quand on est jeune. Et du coup, nous, en tant que professionnels, ça va être plus compliqué d'identifier. Alors si nous on ne peut pas le faire, pour le coup le réseau e-enfance lui le peut puisqu'ils ont des personnels spécialisés dans la récupération des informations, dans la recherche, qui peuvent faire des investigations et évidemment on n'oublie pas les forces de l'ordre qui eux ont accès à l'ensemble des contenus qui sont publiés sur internet. Donc c'est pareil, on va travailler avec eux au besoin pour permettre à un jeune de signaler ce cyberharcèlement et du coup être aidé.
Et c'est dans le cyberharcèlement que rentrent aussi en jeu les fameux promeneurs du net.
Exactement.
Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce qu'est un promeneur du net justement ?
Tout à fait. Les promeneurs du net, ce sont des professionnels qui travaillent sur tout le territoire de la Nièvre, qui ont différents métiers, différentes casquettes. On peut avoir des référents jeunesse de centres sociaux. On peut avoir, par exemple, nous on a une conseillère conjugale et familiale au centre de planification. On a une infirmière au centre de dépistage. On a un éducateur à la maison des ados. Et en fait, tout ce petit réseau va pouvoir réagir encore plus vite lorsqu'il y a un signalement, parce que du coup, on a juste besoin de transmettre un lien Instagram pour que notre jeune victime puisse être prise en charge par le professionnel adapté. Et surtout, ça nous permet aussi d'avoir un regard de veille. C'est-à-dire que quand le jeune ou quand la famille s'inquiète aussi de ce que peut vivre son enfant, il a beaucoup plus de facilité à nous retrouver parfois sur les réseaux, plutôt que de prendre son téléphone, retrouver le bon numéro, tomber sur le bon professionnel. Là, on est identifié, c'est clair, et du coup, voilà, la prise en charge est plus rapide.
Est-ce que c'est possible aussi qu'un jeune se rende au BIJ et que ce soit vous qui identifiez justement un harcèlement scolaire que lui peut-être ne s'était pas forcément rendu compte ?
Oui, ça m'est déjà arrivé, notamment dans des groupes parfois de copains où en fait il y en a toujours un qui est isolé ou qui est mis de côté.
Et on peut appeler la tête de turc un petit peu.
Exactement, et du coup là parfois le jeune ne se rend pas compte qu'il... Il voit bien qu'il vit de la violence, mais il ne sait pas mettre de mots derrière. Et parfois, dans le discours des jeunes, je peux avoir des choses comme « je me fais embêter ». Alors moi, je rigole toujours un peu en disant que « embêter », c'est un enfant de 5 ans qui ne veut pas prêter un jouet, alors que « harceler », on est sur une notion qui est complètement différente, qui est beaucoup plus grave. Donc on essaye aussi de permettre à l'ensemble des jeunes, qu'ils soient témoins, victimes ou auteurs, de comprendre un petit peu ce phénomène, de pouvoir avoir de l'empathie pour les autres, et du coup, de permettre tout simplement de dire les mots lorsqu'il y a des faits de violence qui se déroulent.
Oui, il y a un peu cette idée de pas comprendre la violence tout de suite de ce qu'on subit.
Tout à fait. En fait, c'est devenu très banalisé de se moquer. Et puis d'ailleurs, qui ne s'est jamais moqué de quelqu'un ? Il n'y a pas du tout de raison de blâmer ce genre de comportement. C'est humain, ça peut arriver. La différence, c'est que dans les notions de harcèlement, ce sont des faits de violence qui se répètent, qui durent dans le temps, qui ont pour objectif de faire du mal et d'isoler une victime. Et là, du coup, parfois, c'est la limite est très fine entre tout ce qu'on pourrait dire qui est le chahutage et puis le harcèlement. Et du coup, c'est très important que chaque jeune sache identifier quand ça va trop loin.
Et qui reste axé sur une personne ou une communauté spécifique.
Tout à fait.
Quelles sont les solutions justement pour lutter contre le harcèlement scolaire avant qu'on arrive à des conséquences qui peuvent être parfois même dramatiques, et c'est déjà arrivé malheureusement. Quelles sont les solutions justement ?
La première solution et la plus importante, c'est de libérer la parole. Nous, on dit aux jeunes qu'on ne peut pas lire dans les pensées et que d'ailleurs personne ne le peut, et que quand bien même l'établissement verrait qu'il se passe des choses, à quel moment nous on sait que ce sont des faits qui se sont répétés, et surtout encore plus quand il y a du cyberharcèlement qui vient s'ajouter au harcèlement scolaire. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de pouvoir le dire, de le signaler, et j'insiste sur le fait qu'on n'est pas une balance quand on a dit que quelqu'un avait frappé ou avait insulté une personne pendant 3 jours, parce que si c'était notre petit frère, notre petit cousin, notre petite sœur, on n'aurait pas envie que ça lui arrive. Donc vraiment, le fait d'en parler, ça va en général débloquer toutes les situations, et on va pouvoir réagir beaucoup plus vite en tant que professionnel.
Et le premier objectif, vous aussi, en libérant la parole des victimes, c'est de leur montrer qu'elles ne sont pas coupables et que ce qui leur arrive n'est pas forcément de leur faute, et qu'il ne faut pas qu'elles rentrent dans cette démarche, dans cette pensée de dire de toute façon, voilà, je suis voué à être harcelé toute ma vie, ou du moins toute ma scolarité.
Exactement, on va essayer au plus de déculpabiliser la victime, de pouvoir l'accompagner dans la prise de confiance, parce que du coup, quand on est harcelé, la confiance en soi, parfois, elle est vraiment très très basse. Donc là, l'idée, c'est qu'ils puissent reprendre confiance, qu'ils puissent s'affirmer, qu'ils puissent se défendre aussi. On va donner les clés en termes de répartie pour qu'à un moment donné, ils puissent aussi passer au-delà de ça. Et au besoin, on va faire en sorte que le jeune ou la jeune victime soit pris en charge et qu'il y ait un suivi adapté dans tout l'aspect psychologique et santé mentale. Donc en général, nous, on va travailler avec la maison des ados ou encore avec nos collègues de e-enfance qui vont pouvoir assurer des suivis avec des psychologues qui peuvent répondre au téléphone et puis donner un premier niveau d'information aux jeunes. Donc vraiment, se dire que quand on est harcelé, on n'est pas tout seul. Il y a plein de monde autour qui peut réagir. Et même si on a l'impression qu'on n'a pas de copains, moi j'ai énormément de jeunes qui font preuve de bienveillance en établissement scolaire et qui m'envoient des messages juste pour me dire « Jennifer, j'ai un camarade qui a vécu ça, c'est pas trop mon pote, mais quand même, ça me paraît bizarre, donc qu'est-ce que je peux faire ?» Donc voilà, dites-vous bien autour de vous qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider.
Dans harcèlement scolaire, il y a harcèlement, mais il y a aussi scolaire. Est-ce que c'est aussi un sujet qui rentre en compte quand vous accompagnez une victime, c'est d'éviter le décrochage scolaire et de parler aussi de sa scolarité au-delà de ce qu'il vit avec les personnes qui l'entourent dans le milieu scolaire?
Tout à fait, et là on va beaucoup s'appuyer sur les équipes pédagogiques des établissements. Pour le coup, lorsqu'il y a des faits d'harcèlement et qu'ils nous sont rapportés, on va garantir l'anonymat et la confidentialité de ce qui nous est communiqué. Par contre, on va au besoin alerter l'établissement sur le fait qu'il y a eu une situation dans cette classe, et si ça n'a pas déjà été fait, quelle intervention nous on peut proposer pour améliorer le bien vivre ensemble dans cet environnement. Et puis avec le jeune victime, on va retravailler du coup aussi sur ces notions-là de d'événements ponctuels, en se disant qu'effectivement c'est pas parce que ça lui est arrivé une fois que ça va lui arriver tout au long de sa scolarité, qu'il faut pas décrocher pour autant. On va s'appuyer sur tous les dispositifs départementaux qui existent, mais ça on va aussi le faire avec les auteurs. Je pense que c'est important de dire que le harcèlement scolaire c'est sanctionné, que quand on est dans un établissement, on a tous un dossier scolaire. Le dossier scolaire contient effectivement les notes, le niveau, etc. Mais il contient aussi toutes les problématiques de comportement qu'il y a pu avoir au sein de l'établissement. Et si dans le dossier scolaire, on voit qu'on a eu un jeune qui a été exclu temporairement suite à des faits de violence ou de harcèlement, quand il va, ce jeune-là, poser une candidature pour un lycée avec des options spécifiques, avec un nombre de places limitées, il faut bien savoir que le lycée va regarder ce dossier scolaire. Donc pour le harceleur, il y a des conséquences qui vont au-delà de simplement la classe ou l'année dans laquelle il a fait ça. Ça peut aussi jouer et avoir un impact sur son orientation plus tard. Donc l'idée, c'est de dire attention, c'est pas parce qu'on a 13, 14, 15 ans que le harcèlement reste impuni. Donc il faut vraiment se préserver de toutes parts.
Et d'ailleurs encore moins maintenant, parce qu'il faut rappeler que le harcèlement scolaire, c'est maintenant devenu un délit.
Oui.
C'est depuis le 2 mars 2022 et ça peut encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
Oui.
Donc ce n'est plus un fait qui reste seulement grave, c'est un fait qui est puni. Justement, comment le BIGE accompagne les auteurs? Comment le BIGE parle aux auteurs d'harcèlement scolaire?
Alors surtout, on va pas émettre de jugement parce que on ne sait pas, on n'a pas l'historique, on n'était pas présent, on ne sait pas forcément ce qui a été. Donc l'idée, c'est déjà de permettre d'avoir un espace de parole libre à cet auteur qui puisse.
Et l'objectif,
nous dire,
c'est pas de le braquer aussi sur ce qu'il a fait, parce que sinon après, pour parler, c'est pas. Ouais.
Tout à fait. Là vraiment, c'est lui qui va nous exprimer son point de vue. Nous, on va retravailler avec lui tout ce qui est notion de comportement inadapté. Donc on va lui dire que oui, on peut être très fort en colère, mais que c'est pas pour autant qu'on a le droit de frapper quelqu'un. On va lui dire que oui, on n'est pas obligé d'aimer les gens, hein. Tout le monde ne nous aime pas et nous on n'aime pas tout le monde, ça se comprend, mais du coup on n'a pas le droit pour autant d'insulter ou de faire preuve de violence envers cette personne. Et puis au besoin, on va accompagner ce jeune, parce que comme je le disais, si ce jeune a lui-même été victime d'harcèlement à un moment donné et qu'il n'a pas été pris en charge, il reproduit un schéma parce que c'est un schéma qu'il connaît. Donc l'idée, c'est aussi qu'il puisse avoir un suivi, travailler sur lui-même, développer son empathie, son sens critique, et puis du coup pouvoir aussi avancer et avoir un comportement plus adapté à la société.
Est-ce que vous-même aussi vous faites de la prévention avec le BIGE au sein des établissements scolaires à leur demande?
Oui, alors on le fait à leur demande. J'ai des établissements dans lesquels j'interviens tous les ans sur tous les niveaux de classe de 6e ou de 5e. Et là, l'idée, c'est de permettre à chaque génération, j'ai envie de dire, d'avoir la même information pour que les 4 années de collège se passent du mieux possible et du coup qu'on évite vraiment ce phénomène qui est aujourd'hui beaucoup plus impactant pour les collégiens.
C'est généralement au collège que le harcèlement scolaire démarre le plus souvent?
Oui, on est en pleine construction identitaire, on ne sait pas trop quelles sont nos limites, on ne connaît pas les limites des autres, donc effectivement, parfois, on va peut-être oser faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire, et puis bon, c'est l'adolescence, donc voilà, on teste des choses, on expérimente, et du coup, ça peut amener parfois à des comportements violents. Je tiens quand même à préciser qu'on a des situations de harcèlement scolaire qui commencent dès la primaire. Et nous, on intervient à partir de la 6e. Donc déjà, dès la 6e, on retravaille des choses qui potentiellement ont déjà
ont
été
déjà
vécues.
Commencé, ouais. Ouais. Quel est le rôle aussi de la famille auprès des victimes comme des auteurs? Et est-ce que le BIGE intervient aussi auprès des parents, par exemple?
Oui. Alors, on intervient dans deux cadres. Soit dans un cadre de sensibilisation informatif à la demande d'une structure. On va créer une soirée aux parents sur la thématique du harcèlement ou du cyberharcèlement. On va aussi pouvoir faire un petit peu de médiation familiale, donc débloquer la parole entre l'enfant et les parents lorsqu'on sent que c'est compliqué, surtout quand l'enfant ne veut pas dire ce qui lui arrive. La famille ne comprend pas pourquoi son enfant a changé de comportement. Donc l'idée, c'est de favoriser un petit peu les échanges entre eux. Et puis, moi, j'ai beaucoup de parents qui, en début d'année scolaire, m'envoient un petit message sur Instagram pour me demander ce que c'est que le harcèlement, pour que si jamais ça intervient auprès de leur enfant, ils aient les clés déjà pour pouvoir le repérer.
Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait du déni de la part des parents qui n'acceptent pas le fait qu'ils n'aient pas vu quelque chose chez leur enfant et que du coup ça forme du coup un déni de non, c'est pas possible, mon enfant peut pas être harcelé, je l'aurais vu?
Alors oui, effectivement, très souvent, parce que quand on est adolescent, parfois on se mure dans le silence et on ne fait pas état de nos émotions, et du coup il va y avoir que très peu de signes alarmants, et il suffit que la famille aussi prise dans le quotidien, hein, effectivement, on n'ait pas pu voir ces signes, tout simplement, du coup qui me disent mais non, moi c'est pas possible. si mon enfant n'est pas harcelé. Et puis, très souvent, il y a un phénomène de culpabilisation derrière. Donc, nous, on veille à déculpabiliser la famille aussi en disant, attention, il faut savoir que si le jeune n'a pas parlé, on ne peut pas le deviner. Ça, c'est vraiment très important. Donc, du coup, la famille aussi va peut-être adapter ses manières de communiquer avec l'enfant, avec le jeune. Et puis, du coup, au fur et à mesure, ça va débloquer parfois des situations et des tensions qu'il peut y avoir au sein de la famille. Mais tout ça, c'est vraiment très compliqué. Ça nécessite un accompagnement vraiment très global et très important pour tout le monde.
Mais la première solution, elle passe par le fait de parler et d'exprimer ce qu'on ressent. C'est le rôle du BIGE. C'est aussi le rôle de plusieurs organismes dont vous avez parlé. Donc, il y a e-enfance et non au harcèlement aussi. Non au harcèlement, c'est quoi la différence avec e-enfance?
Alors, non au harcèlement, c'est une plateforme téléphonique qui a été créée et mise à disposition par l'État. Et du coup, ce petit numéro permet à n'importe quel jeune parent professionnel d'appeler, de tomber sur un professionnel et de demander, c'est quoi le harcèlement? Là, je suis face à telle situation, est-ce que c'est du harcèlement? Comment je peux faire pour aider? Ça va être un petit peu une structure qui va permettre de faire un état des lieux, donner des pistes de travail. Et puis surtout, c'est un numéro anonyme, gratuit, confidentiel, accessible à tous. Donc moi, j'encourage vivement les élèves ou les jeunes de manière générale à pouvoir l'appeler, à savoir que ce numéro court est présent dans tous les carnets de liaison des élèves. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un outil qui est mis à disposition des élèves.
Voilà, les numéros pour non au harcèlement, c'est 30-20 et e-enfance c'est 30-18. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en lien avec le BIGE sur le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement, même des infos?
Alors, moi, j'invite potentiellement les professionnels des établissements qui nous écoutent à pas hésiter à venir vers nous s'ils souhaitent mettre en place un projet autour du harcèlement. On a également une exposition qu'on peut mettre à disposition gratuitement, qu'on peut prêter, qui permet de traiter des notions de harcèlement scolaire. Ça peut parfois permettre d'être un premier support d'échange au sein de l'établissement. Et puis, évidemment, tous les jeunes, vraiment, dites-le, parlez. Ça permettra vraiment de débloquer plein de situations, de vous aider très rapidement. Parce que parfois on entend le fait que les démarches sont longues, les accompagnements sont longs, mais non, quand les choses sont dites et dès le début des faits, on peut vraiment réagir très vite et permettre que ça ne s'envenime pas.
Merci Jennifer.
Merci à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur BAC FM. Moi je vous souhaite une bonne soirée sur le 106.1 et je vous retrouve demain à 13h. Bye.